RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal avec Sébastien Duhamel.
Et la guerre dans l'est de la RDC, une nouvelle fois à la une, car la diplomatie poursuit ses efforts pour rapprocher les voisins congolais et rwandais. Après avoir pris la tête de la médiation de l'Union africaine, le président togolais Fornia Singbe était hier à Kinshasa, à l'heure où l'AFCM23 réclame de son côté un accord avec la MONUSCO pour encadrer et baliser la présence de la mission onusienne. Une manifestation hier aux Comores, à Moroni, on dénonce l'idée que Mayotte rejoigne la commission de l'océan Indien sous drapeau français. Emmanuel Macron est justement attendu dans la région la semaine prochaine. Réunir 10 000 volontaires pour observer la présidentielle d'octobre au Cameroun, c'est le projet des bâtisseurs de la nation, une plateforme qui se veut citoyenne. Vous entendrez l'une des personnalités qui en est à l'origine. Les habitants de Bangui en Centrafrique qui se préparent aux fortes pluies annoncées dans les prochaines semaines, tout pour éviter de nouvelles inondations. Et puis cette chute du 11e étage en Chine, un décès brutal qui reste à élucider pour le footballeur gabonais Aaron Boupa. Penza, il avait 28 ans, pardonnez-moi. La nouvelle sidère ses coéquipiers gabonais qui lui rendent hommage. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se penchait une nouvelle fois hier à New York sur la guerre dans l'Est de la RDC, eh bien celui qui a hérité du dossier pour le compte de l'Union africaine effectuait son tout premier déplacement à Kinshasa dans ce cadre, le président togolais Fornia Singbe, qui a succédé la semaine passée à l'Angolais João Lourenço et qui a donc rencontré le président Tshisekedi pour prendre langue, Pauline Azidi.
Le président togolais, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, est arrivé vers 16h30 à l'aéroport de Ndjili. Il s'est directement rendu à la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président Tshisekedi pour une première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination officielle de Fornia Singbe comme médiateur de l'Union africaine. Un tête-à-tête de 2 heures dont rien n'a filtré, confie une source à la présidence congolaise. Pas de déclaration à la sortie. La RDC prend acte de cette désignation et on espère que cela va rapidement mettre fin au cycle de violence, fait-on savoir à Kinshasa. Fornia Singbe a quitté la capitale dans la soirée. C'était surtout une prise de contact pour celui qui hérite d'un dossier complexe où il n'est en plus pas le seul à s'occuper de la médiation, puisque le Qatar, après avoir organisé en mars une rencontre entre les deux présidents congolais et rwandais, anime les discussions entre le M23 et Kinshasa, et que les deux régions est-africaine et Afrique australe ont elles nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et pendant ce temps, sur le terrain justement, dans l'est de la RDC, une revendication de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villes. Selon nos informations, le mouvement politico-militaire exigerait la signature d'un protocole d'accord avec la mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, Patient Ligodi, pour encadrer sa présence dans la zone.
L'AFC M23 considère la MONUSCO comme une force vaincue. Elle rappelle que les casques bleus avaient pris part au combat pour tenter d'empêcher la chute de Goma. Face à l'avancée de l'AFC M23, ils avaient déployé une opération dénommée Springbok 3. Le dispositif des casques bleus comprenait notamment une force d'intervention rapide, un bataillon des réserves, un bataillon des déploiements rapides, des forces spéciales et une batterie d'artillerie. Mais ces efforts n'ont pas suffi à stopper l'avancée de l'AFC M23 appuyée par les forces rwandaises. Les affrontements avaient coûté la vie à 3 casques bleus et blessé au moins 37 autres. Aujourd'hui, le rapport des forces s'est inversé. Les mouvements de la MONUSCO sont étroitement surveillés et limités par l'AFC M23. Et ces derniers demandent désormais un accord écrit définissant la nouvelle posture de la mission dans les zones qu'ils contrôlent. Des sources onusiennes ont confirmé à RFI que l'AFC M23 pousse depuis plusieurs semaines à la signature d'un mémorandum d'entente. Mais la MONUSCO rappelle qu'en l'état actuel, elle ne peut pas accéder à cette demande. Pour engager une interaction formelle avec un groupe armé sous sanction, il lui faut une autorisation spécifique issue d'un mandat révisé du Conseil de sécurité. Or, ce mandat n'a pas encore été modifié.
Patient Ligodi, une visite de 2 jours refermée hier en Russie pour le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola. Il s'est entretenu avec son homologue, Sergueï Lavrov. Dans un communiqué, le ministère sud-africain a souligné les liens diplomatiques durables qui existent entre les deux pays. La guerre en Ukraine était bien sûr au cœur des échanges. Pretoria réaffirme la nécessité de voir une cessation immédiate des hostilités pour une solution négociée. L'Afrique du Sud, qui continue d'ailleurs d'afficher sa volonté de dialoguer tant avec Moscou qu'avec Kiev. Elle recevra la semaine prochaine une visite du président ukrainien. Un déplacement au Niger hier, celui du chef de la diplomatie du Nigeria, Youssouf Maïta Tougar. Il a été reçu par son homologue nigérien, Bakary Yahou Sangaré. Réchauffement entre les deux pays, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement nigérian se rendait au Niger depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum. Le président français, attendu quant à lui la semaine prochaine pour sa toute première visite à Madagascar. Emmanuel Macron y participera au 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien, auquel la France participe au titre de l'île de la Réunion. Mais à quelques jours de cet événement, une manifestation hier non loin de là, aux Comores, à Moroni, où les manifestants dénonçaient un possible rattachement de l'île de Mayotte à cette commission de l'océan Indien, territoire actuellement administré par la France mais revendiqué par les Comores. La rumeur de la construction future d'une base navale française à Mayotte a également agité les réseaux sociaux dernièrement. L'ambassade de France à Moroni a officiellement démenti, mais cela ne calme manifestement pas la colère, Abdallah Mzembaba.
Pour les manifestants, le message est clair. Mayotte est comorienne et ne peut pas siéger à la CEOI comme territoire français. Mohamed Bonjoin, président du comité maori, milite pour le retour de l'île dans l'Union des Comores.
Nous ne voulons pas que demain Mayotte intègre la CEOI sous son propre nom et comme entité distincte, alors que l'île fait déjà partie de l'organisation à travers son appartenance à l'Union des Comores. Cela, nous le savons tous. Vous savez que nous sommes dans notre bon droit et quand on a raison, on finit toujours par obtenir gain de cause.
Présent à la manifestation, Maître Ibrahim Ali Mzimba invite à suivre l'exemple de Maurice face au Royaume-Uni et à revoir la stratégie vis-à-vis de Paris.
La diplomatie bilatérale.
La diplomatie bilatérale a montré ses limites. Il est temps de changer de cap. Mettons fin à cette coopération économique trompeuse. Instaurons uniquement des relations consulaires. Fermons l'ambassade française et ses antennes ici. Et procédons de même avec notre ambassade à Paris.
Au sein de la Commission de l'océan Indien, chaque décision requiert l'accord de tous les membres. La position des Comores suffit donc à elle seule à geler toute tentative d'intégration de Mayotte dans la COI comme territoire français. Abdallah Mzembaba, Moroni, RFI.
10 000 observateurs pour superviser l'élection présidentielle attendue en octobre au Cameroun. Voilà l'objectif des bâtisseurs de la nation. Une plateforme qui se présente comme citoyenne, non partisane et qui souhaite mobiliser autour de ce rendez-vous électoral. Initiative portée notamment par l'avocate Michèle Ndoki, ancien soutien affiché de l'opposant Maurice Kamto. Elle se trouve actuellement à Maroua dans l'extrême nord pour recruter des volontaires justement. Et elle nous explique cette démarche ce matin sur RFI.
Les bâtisseurs de la nation veulent répondre à une attente des Camerounais qui s'est exprimée encore plus fort après les dernières élections. On est sorti de là fatigué, déçu par la preuve de fraude massive et l'idée que le président désigné par le Conseil constitutionnel n'est pas forcément celui que voulaient les Camerounais. Donc, on a un jeu politique, on a un système électoral qui n'est pas parfait. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Focalisons-nous sur dire ce que nous voulons et organisons-nous pour que ce que nous voulons ne soit pas travesti. Notre organisation réunit 10 000 volontaires qui seront répartis dans un échantillon représentatif de bureaux de vote qui permettront de savoir quel est le choix des Camerounais et qui permettront à cette personne d'être consciente que désormais, il ou elle nous doit des comptes sur ce qu'il fait et il ou elle doit faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous avons eu au cours des dernières décennies.
Les mots de l'avocate Michèle Ndoki au Cameroun. Ils se remontent les manches et font marcher l'huile de coude. En Centrafrique, les habitants de Bangui se préparent à affronter de fortes pluies dans les prochaines semaines. L'alerte météo est lancée, alors oui, on se prépare, notamment dans les quartiers régulièrement confrontés aux inondations, comme dans les quartiers sud-ouest de la capitale, où nous emmène Rolf-Steve Domialeux.
Ce matin, de gros nuages noirs se forment dans le ciel. En remontant vers les quartiers riverains sur la berge en face de l'île aux singes, l'eau s'infiltre progressivement dans les quartiers. Saturnin est sur ses gardes.
Quand il pleut, l'eau rentre directement dans notre maison. Nous sommes en train de faire le curage des caniveaux afin de libérer les déchets et la boue. Beaucoup de maisons fragiles ont déjà été détruites par les eaux.
Junior vit avec sa famille au quartier de Kolongo depuis 2023. La fondation de sa maison est complètement dans la boue malgré sa hauteur. Le jeune informaticien est sur le point de déménager.
La zone est assez marécageuse et chaque année, nous subissons d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Trop, c'est trop. Nous avons décidé de quitter le secteur.
D'abondantes précipitations sont attendues dans les prochains jours, selon Rodrigue Leland, directeur général de la météorologie centrafricaine.
Du mois de mars, avril, mai jusqu'au mois de juin, on doit s'attendre à des précipitations beaucoup plus soutenues que d'habitude. Je demande aux Centrafricains de suivre quotidiennement le journal Météo qui va leur permettre en fait de planifier leurs activités irrelatives.
La Direction générale de la météorologie précise également que toutes les régions du pays sont en proie à la montée des eaux. Cette situation menace fortement la bonne marche des activités agricoles. Rolf Esteve Domialeux, Bongis, RFI.
Une disparition brutale et pour le moins surprenante dans le monde du foot. L'international gabonais Aaron Boupenza est décédé hier en Chine, où il évoluait au club de Zhejiang. À 28 ans, il a chuté du 11e étage de l'immeuble où il vivait. Mais ça, les circonstances de ces événements restent à établir précisément. Mais sa disparition, en tout cas, attriste ses coéquipiers gabonais qui lui rendent hommage sur les réseaux à l'image de Mario Lemina ou Pierre-Emerick Aubameyang. Aaron Boupenza avait porté le maillot des Panthères à 35 reprises, inscrivant 8 buts sous leurs couleurs. L'ancien sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, lui rend donc hommage également ce matin.
Alors, techniquement, c'était, je dirais, très très niveau dans ses prises de balles, dans ses enchaînements, dans sa qualité de frappe, dans sa précision. C'était aussi un véritable buteur, et puis qui avait des dribbles extrêmement déroutants. Et à côté de ça aussi, des qualités physiques au-dessus de la moyenne, vitesse de course très très bonne, un volume de jeu très intéressant. Après, il fallait, mais comme ces attaquants de caractère, être à côté de l'homme et le gérer, quoi. C'était un joueur avec qui je devais être très très exigeant, mais aussi très très à son écoute et toujours un œil périphérique dessus, dans les rassemblements ou autres. Mais bon, quelque part, ça faisait partie de mon travail, mais un garçon aussi très attachant.
Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon, qui rendait donc hommage ce matin à Aaron Boupenza, qui est décédé hier en Chine. L'actu sport qui est à suivre très bientôt sur RFI. On retrouve Andréane Mélard.